Vous écoutez Radio France Internationale, il est 4h à Beyrouth et Tel Aviv, 2h en temps universel.
Diane Berger.
À la une de cette édition, la guerre qui n'en finit pas à Gaza, Israël y mène des bombardements particulièrement intenses. Plus au nord, au Liban, le cessez-le-feu semble déjà bien fragile. Beyrouth accuse l'État hébreu d'avoir commis plusieurs violations de l'accord de trêve. Et dans le sud du pays, l'armée libanaise risque d'avoir du mal à prendre le dessus sur le Hezbollah. Le Tchad met fin aux accords de coopération de défense avec la France. N'Djamena l'a annoncé peu avant minuit, quelques heures seulement après le départ du ministre français des Affaires étrangères. Dans l'actualité également, la visite à Paris du président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, venu parler économie avec Emmanuel Macron. Et puis en Roumanie, les résultats du premier tour de la présidentielle provoquent des tensions. La Cour constitutionnelle a ordonné le recomptage des voix. Situation paradoxale au Proche-Orient. Un calme relatif est revenu au Liban au deuxième jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. On y revient dans un instant. Mais d'abord à Gaza, la guerre est toujours aussi violente. Les bombardements israéliens semblent même être devenus plus intenses sur l'enclave palestinienne depuis deux jours. Oriane Verdier.
L'un des correspondants d'Al Jazeera dans le centre de l'enclave décrit notamment d'intenses bombardements sur le camp de réfugiés de Nusayrat. Il rapporte de nombreuses explosions autour d'un hôpital de campagne, ainsi que des appels de détresse lancés par des civils bloqués dans une école. L'un de ses collègues, caméraman pour Al Jazeera, a d'ailleurs été blessé aujourd'hui à Nusayrat. Les bombardements continuent également dans le nord de l'enclave. Israël est soupçonné de vouloir créer une zone tampon le long de la frontière. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a d'ailleurs déclaré plus tôt cette semaine qu'Israël devrait occuper la bande de Gaza et réduire de moitié sa population palestinienne. Parallèlement, le Programme alimentaire mondial tente à nouveau d'alerter sur le manque de nourriture et de biens de première nécessité causés par les attaques israéliennes et le blocus israélien sur Gaza. Selon l'agence onusienne, la population ne peut tout simplement plus faire face alors qu'un nouvel hiver s'installe à Gaza.
Oriane Verdier, concernant le Liban, des fissures apparaissent déjà à la surface de la trêve. L'armée israélienne a mené une frappe aérienne contre une installation du Hezbollah dans le sud du pays et Beyrouth accuse l'État hébreu d'avoir violé à plusieurs reprises les termes du cessez-le-feu. Un respect imparfait de la trêve et de ce texte qui prévoit qu'Israël quitte le sud du territoire libanais dans les 60 jours. Le Hezbollah doit aussi se retirer d'une bande de 30 km à la frontière au profit de l'armée libanaise. Or, cette armée souffre depuis plusieurs années d'un manque de moyens. Alors, peut-elle vraiment reprendre la main face au mouvement islamiste ? Muriel Paradon a posé la question à Karim Bitar, professeur de relations internationales à l'université Saint-Joseph de Beyrouth.
Suite à la conférence des donateurs qui s'est réunie à Paris, il a été décidé de renforcer les capacités de cette armée libanaise, d'envoyer 5000 hommes de plus au sud Liban pour tenter de contrôler l'ensemble du territoire. Encore faut-il que le Hezbollah joue le jeu, que le Hezbollah accepte que l'armée libanaise puisse réellement mettre la main sur ces zones où le Hezbollah dispose toujours de rampes de lancement, d'un certain nombre de tunnels, d'armements. Et la position du Hezbollah elle-même dépendra de la flexibilité des Iraniens. Est-ce que les Iraniens veulent toujours maintenir une force de dissuasion face à Israël ? Ou est-ce que pour assurer la survie de leur propre régime, ils sont prêts à accepter que le Liban soit insularisé, que le Liban soit dissocié de cette querelle des axes régionaux ?
Karim Bitar, professeur de relations internationales à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. On reste dans la région avec en Syrie des combats très violents autour d'Alep. Les rebelles djihadistes tentent d'élargir leur territoire face à l'armée de Bachar el-Assad. En deux jours, les affrontements ont fait plus de 200 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le Tchad met fin aux accords de coopération de défense avec la France. La nouvelle est tombée peu avant minuit, heure de N'Djamena. Dans un communiqué, le ministère tchadien des Affaires étrangères explique qu'il est temps, je cite, pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière. Une annonce quelques heures à peine après le départ du Tchad de Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. Le ministre tchadien des Affaires étrangères veut tempérer. Il précise que la France reste un partenaire essentiel. Ce n'est pas une rupture, dit-il, comme au Niger. Un autre pays d'Afrique avec lequel la France tente d'avoir des bonnes relations, cette fois-ci sur le plan économique, c'est le Nigeria. Son président Bola Ahmed Tinubu a été reçu hier à l'Élysée. Première étape d'une visite d'État de 3 jours, la première depuis 24 ans pour un président nigérian. Avec le président Emmanuel Macron, ils ont évoqué ensemble des axes de collaboration multiples pour les deux pays. Lisa Fabian.
Les lignes d'action pour l'investissement des entreprises françaises au Nigeria concernent aussi bien le domaine de l'énergie que des métaux rares et des minéraux critiques, en passant par les nouvelles technologies ou les industries créatives et culturelles. Le président Emmanuel Macron a indiqué que plus de 330 millions d'euros de prêts seraient débloqués par l'Agence française de développement dès 2025 pour soutenir ces projets, auxquels s'ajouteront par la suite des prêts du Trésor. Des promesses saluées par le président Bola Tinubu, qui a rappelé de son côté la nécessité de créer des emplois pour la jeunesse nigériane et d'assurer la sécurité alimentaire de la population de son pays. Mais la relation se veut réciproque. La France est ainsi devenue le premier hub d'affaires nigérian en Europe, avec notamment l'implantation à venir d'une 5e banque nigériane à Paris. Emmanuel Macron a également apporté un soutien plus politique à Bola Tinubu en encourageant ses réformes pourtant controversées au Nigeria et en assurant que la France souhaite voir plus de représentants des pays africains dans les grandes instances internationales.
Pendant ce temps, le Premier ministre d'Emmanuel Macron tente de sortir de la crise politique. Michel Barnier multiplie les gestes en faveur de l'extrême droite pour éviter le vote d'une motion de censure. Il renonce à la hausse des taxes sur l'électricité au-delà de leur niveau d'avant-crise. Il veut aussi baisser l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Des demandes du Rassemblement national, mais cela n'a toujours pas l'air d'être suffisant pour Marine Le Pen, qui répond que le chef du gouvernement a jusqu'à lundi pour répondre à d'autres de ses revendications. Ce rebondissement en Roumanie. À 10 jours du second tour de la présidentielle, la Cour constitutionnelle ordonne un recomptage des voix du premier tour. Le scrutin dimanche dernier, qui s'est soldé par l'élimination du favori des sondages et l'arrivée en tête d'une surprise, le candidat pro-russe Kalin Georgescu. Les précisions de Romain Le Maresquier.
C'est une opération compliquée qui s'annonce, car la décision de la Cour constitutionnelle roumaine de procéder à un recomptage des près de 9,5 millions de bulletins de vote se télescope avec l'organisation le week-end prochain des élections législatives. La Cour constitutionnelle, qui n'a pas précisé les modalités de ce recomptage ni quand il se déroulerait, répond ainsi au recours de Christian Terès, un député européen d'extrême droite, arrivé en 9e position lors du scrutin dimanche dernier avec 1% des voix. Par contre, la Cour constitutionnelle n'a pas validé un autre recours reçu selon elle tardivement, qui dénonçait le financement jugé opaque de la campagne de Kalin Georgescu, le candidat d'extrême droite pro-russe qui a déjoué tous les pronostics en s'imposant lors du premier tour. Par ailleurs, à l'issue d'une réunion du Conseil suprême de la Défense nationale qui se tenait ce jeudi, les autorités ont annoncé avoir constaté des cyberattaques visant, je cite, à influencer la régularité du processus électoral en cours et un intérêt croissant de la part de la Russie afin d'influencer l'agenda public roumain. Enfin, la présidence roumaine a tenu à alerter ses concitoyens sur le traitement préférentiel accordé par TikTok aux candidats d'extrême droite, des autorités qui appellent à la mise en place de mesures d'urgence.
Toujours justement concernant la présidentielle roumaine, TikTok a répondu aux critiques et la plateforme dément avoir traité différemment le candidat d'extrême droite. Le réseau social chinois qui se dit également déçu par la nouvelle législation australienne. Le pays vient d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Selon TikTok, cette interdiction pourrait pousser les jeunes utilisateurs vers d'autres sites internet moins régulés. Enfin, un mot de football et ça ne s'arrange pas pour l'OGC Nice en Ligue Europa. Après avoir seulement grappillé 2 points lors de ses 4 premiers matchs, le club azurien a sombré hier soir à domicile face aux Glasgow Rangers. 4-1. En cause de nombreuses absences, mais c'est pas une excuse suffisante pour l'unique buteur niçois de la soirée, le jeune milieu algérien Badreddine Bouanani. On l'écoute.
On est vraiment dégoûté. On a fait un très mauvais match. On leur a donné beaucoup de cadeaux sur les buts. Donc non, franchement, c'est vraiment un match à oublier aujourd'hui. On a essayé de tout donner jusqu'à la fin, mais voilà, faut vite se reconcentrer. On est désolé pour les supporters pour ce match, mais on va vite relever la tête parce qu'il y a un match dans 3 jours. Et voilà, faut vite tourner la tête. C'est vrai qu'avec les absences, ça nous fait un peu de mal parce qu'il y a des cadres qui sont pas là. Mais normalement, c'est aussi aux remplaçants ou comme à moi de faire mieux, de prouver au coach qu'on peut démarrer les matchs. Mais voilà, on est vraiment dégoûté. Faut pas trouver l'excuse des absences, je pense.
Nice qui pointe maintenant à la 35e et avant-dernière place de la Ligue Europa. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, 8 milliards de voisins.